Histoire en partage, au pas si loin.
Evelyne, Patricia, Daniel,
Marc-Antoine,
Zoé,
Yannick,
Dani,
Catherine,
Bernadette,
Manuela,
Gilles.
Octobre 1967, j'ai 18 ans, je vais à l'école commerciale le soir. Dans le train, dès le premier jour, je tombe sur Carlos, un garçon qui a 16 ans et fréquente, comme moi, cette école. On passe notre temps ensemble et évidemment, on tombe amoureux. Aujourd'hui, 58 ans après, on se téléphone, on se donne des nouvelles. Dans le même cours, il y a Odette. On est amis très vite et on se fréquente. 1969, je pars en Angleterre où elle me rejoint. Un an plus tard, il y a aussi Marie-Lima qui habitait à côté de chez moi avec ses parents. C'est chez eux que j'atterris en 1969. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis et on s'écrit, on se voit de temps en temps. Il y avait Antoine, lequel m'attendait. Et dès mon arrivée, on échangeait nos habits. Il adorait mettre mes robes ou mes jupes. Par contre, les chaussures, c'était un peu juste, mais il y arrivait. Quelle rigolade! La prof nous voyait arriver et éclater de rire. Une autre prof, je ne me rappelle plus son nom, lui, elle par contre, n'était pas très sympa. Alors, ensemble, on lui bouchait son pot d'échappement avec des patates. Elle n'a jamais découvert qui était derrière ce complot. Il y avait Isabelle. Ses parents avaient un magasin de tissus et un grand garage où on faisait des booms, on s'éclatait avec de la musique à fond jusqu'à pas d'heure. Et puis, il y avait Péline Pat, ma Péline que je viens de retrouver sur Facebook. Et depuis, on s'appelle et on s'écrit.
En 2017, voyage de retour au pays natal. Après Ninh Bình, où nous n'avions pas trouvé de place disponible en train pour Hue, nous avons commencé à voyager en autocar. Nous quittons donc Hue pour Ho Chi Minh Ville. La direction indiquée sur le devant de l'autocar est celle de Saigon, comme s'il ne s'était rien passé entre ces deux noms de la même ville. Le car s'arrête assez souvent. Il sert de service postal plus ou moins officieux pour les colis. C'est d'ailleurs comme cela que nous y sommes montés, sans signalétique d'arrêt. On se déchausse et on se sert dans un panier de claquettes mis à disposition des voyageurs. On nous a attribué des sortes de couchettes plutôt confortables. Ma fille et moi, nous sommes les deux seules voyageuses occidentales. Arrêt-repas, d'immenses espaces tenant plus de la cantine que du restaurant, évoquent des pays comme celui de Cuba. Plusieurs tables nous sont réservées. À l'une des pauses, un religieux nous ayant entendu converser en français se présente en quelques mots. Ayant ainsi ravivé sa mémoire, il entonne avec une certaine fierté tous les couplets, ou presque, d'Alouette, gentille Alouette. À l'arrêt suivant, il nous donnera sa bénédiction que nous remercions par nos sourires. Nous sommes ainsi joyeusement pourvus pour la suite du voyage. La clarté des paysages de rizières nous réveille, puis c'est le premier arrêt de la journée, avec la soupe de feu en guise de petit déjeuner. Cela après une vingtaine d'heures de voyage.
Les années 60. En 1966, j'ai 6 ans et ma mère et moi arrivons en France par le bateau. Nous débarquons à Marseille. Nous nous installons ensuite à Paris avec mon père et ma sœur. J'intègre l'école primaire de la rue Tiquetonne, près des Halles. Les années 70. Ma mère, toujours à l'affût des nouveautés, obtient un téléphone, le premier et le seul de l'immeuble. Les voisins reçoivent et donnent leurs appels de chez nous. Mon père achète sa première voiture, qu'il peut encore garer dans la rue. Nous avons aussi une TV en noir et blanc. Avec les enfants d'amis, nous regardons Zorro, tous les jeudis après-midi. Les Halles déménagent à Rungis et emportent avec eux le bruit de leur vie. Le centre Pompidou ouvre ses portes et ce quartier devient un terrain de découverte et d'excursion. Les années 80. Les années liberté. J'ai 20 ans, j'ai un travail et un appartement dans le 20e et j'entame ma vie d'adulte.
Nuit d'angoisse. Si je suis malade, maman viendra dormir avec moi. D'ailleurs, je ne me sens pas très bien ce soir. Un malaise indéfinissable, une boule dans le ventre. Je ne peux pas m'endormir. Pourtant, j'ai eu mon verre d'eau, mes deux histoires racontées par maman, un petit câlin, j'ai fait pipi 3 fois, mais non, ça ne va pas. Si je suis malade, maman viendra dormir avec moi. Je crois que j'ai envie de vomir. Ça doit être cette tarte aux prunes dont je me suis gavée. Et si j'appelais maman? Mais il faut que je sois sûre d'être vraiment malade. Tout est tellement calme. Je n'entends que le tic-tac de l'horloge et le ronflement de papa. C'est une nuit comme les autres. Alors, pourquoi je me sens si seule? Enfin, bon, c'est vrai que la journée n'a pas été terrible. Brigitte ne veut plus jouer avec moi et s'est trouvée une nouvelle amie. J'ai erré toute seule dans la cour de récréation en refoulant mes larmes. En plus, j'avais oublié mon livre de lecture et j'ai dû aller au coin une bonne demi-heure pendant que les autres rigolaient. Je ne veux plus aller à l'école. D'un coup, les sanglots tant retenus déferlent et secouent tout mon corps. Maman ne tarde pas à arriver. Elle se glisse tout contre moi. Je sens son odeur si rassurante et un reste de Chanel numéro 5 dans ses cheveux. Tout va bien maintenant. Je vais pouvoir m'endormir.
Durant, j'ai été locataire, escalier 6 au 3e étage d'un bâtiment en briques rouges édifié dans les années 1920 sur les anciennes fortifications de Thiers autour de Paris. Le plus drôle, c'est qu'avant, un jour en y passant en bus, le bus de la petite ceinture, m'avait traversé cette pensée. Bon sang, mais quelle idée d'habiter là! Tant ça semblait loin de tout. Puis, le facétieux Lazare de l'attribution des logements m'y avait décroché un appartement et je m'y étais fait. Un spacieux de pièces de 53 mètres carrés, dégagé, avec une belle hauteur de plafond, mais d'une minceur de cloison devenue inopérante face aux télés des vieilles voisines dures de la feuille, je cumulais, celle du dessous et celle du palier, sans compter les films de guerre à animation stéréo du voisin du dessus. En plus, ce dernier avait le chic pour se dégoter des petites minettes dont je pouvais suivre les talons intempestifs par tout le plafond. Une nuit, qu'il était rentré à pas d'heure, avec force boucan, quand tout le monde dort, c'est encore mieux pour apprécier, moi, motus. Mais le lendemain dimanche, 6h du mat, l'espérant bien en train de rattraper sa courte nuit, avec quel enthousiasme du haut de mon escabeau, j'avais tapé sous l'emplacement de son lit au plafond, pendant 5 bonnes minutes. Personne n'ayant protesté, pour mieux lui laisser passer le message, une demi-heure après, j'avais remis ça. Et depuis, ça s'était bien passé. Néanmoins, lassé par un voisinage devenu de plus en plus envahissant, je m'étais résolu à prendre mes clics et mes claques pour migrer vers certes moins grand, mais plus calme.
Allô? Ici le 10 à Saint-Jean. Je voudrais le 17 à Thônes, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous mets en relation. Le 10 à Saint-Jean. La 10e famille du village ayant l'honneur d'avoir le téléphone. Certes, il n'était pas installé dans le bureau. Il trônait dans l'escalier entre l'appartement de notre famille et celle des cousins. Si j'étais là, quand il sonnait, je me précipitais pour répondre et faire la petite messagère auprès d'un frère, d'un oncle ou d'un voisin. Et si la sonnerie ne se répétait pas, c'était souvent ma sœur qui avait décroché, plantée dans l'escalier, en attente du coup de fil de son amoureux. Demandez-moi aujourd'hui mon numéro de téléphone. Je vais réfléchir par deux fois avant de vous répondre. Mais pour le 10 à Saint-Jean, aucune hésitation. Année 80. Vie d'étudiante, petit boulot, premier argent gagné. Enfin, mes rêves vont pouvoir se concrétiser. Premier achat, une radiocassette. Ah, je ne fais pas dans le minimalisme, elle est plutôt imposante. Mais il suffit d'appuyer sur un bouton, de tourner le volume, et c'est magique. La musique envahit la chambre, et peut-être même celle des voisins. Deuxième achat, un sac de couchage. Je le choisis bien chaud. Enfin, la liberté, l'évasion. Je peux sortir de la ville et aller dormir dehors, au bord de la mer ou dans les champs d'artichauts. Il est bien utile aussi lors des squats sur le campus universitaire où toute la nuit nous préparons les actions pour la prochaine grève, puis nous nous endormons en refaisant le monde. Année 2000. Vendredi, je suis bien studieuse. Pour ceux qui ne passent pas derrière moi. Car en fait, je fais le grand ménage, une clé USB pour copier quelques précieux documents. Puis, je supprime tous mes mails et docs personnels. Je récupère quelques affaires dans les placards. Dernier tour d'horizon. Bon week-end. Merci à toi aussi. J'ai bien gardé mon secret. Je ne reviendrai pas. Mon médecin m'a prescrit un arrêt. Il estime que le trajet est trop long et que je peux avoir trop de stress. Heureusement que le télétravail n'est pas encore au goût du jour. Lundi, envoi de mon arrêt de travail, et à moi la belle vie. Quel bonheur de déambuler dans les rues, se laisser caresser par les rayons du soleil, alors que tout le monde bosse. Que c'est tranquille. Je me crois dans un autre univers, celui des femmes au ventre rond. Petit sourire de connivence. Et des poussettes. Pas mal la trois roues, mais elle est chère. La macarène a du succès.
C'est l'été, on part à l'île d'Oléron, famille au complet, enfants, chiens, valise, poussette, peau. Ce n'est pas le premier départ pour l'île et toujours cette même joie. La voiture craque sous cette joie. On s'arrête, prendre belle maman, on se serre encore un peu plus. Envie pressante, on s'arrête au bord de la route, on sort le pot, on se dégourdit les jambes et les pattes. Juste avant d'arriver, on s'arrête au grand primeur du coin qui nous attend presque. On trouve encore de la place dans ce coffre plein pour caser courgettes, prunes, pommes de terre, haricots verts. On traverse le pont, la marée est basse, l'air marin dans nos narines signe le départ de notre parenthèse enchantée. À la sortie du pont, nous abordons l'île, d'un bonheur qu'on nous croyait gravé pour toujours dans l'écume. C'est l'été, mais pas comme les autres. C'est l'été et le soleil est une insulte. C'est l'été. Il faut bien partir quelque part. Un gîte dans les vignes du côté de Marseille, une piscine. L'apprentissage d'autres vacances. Nous sommes moins nombreux dans la voiture. Je conduis et pas d'arrêt chez le primeur. Cet été-là, le bleu de la piscine et celui de la mer ont atténué le noir de la peine. C'est l'été. À quoi bon partir seul ? Je prends une carte et j'y colle mon doigt au hasard. à quoi bon chercher les traces d'avant? Tournons-nous vers l'inconnu et peut-être l'avenir. Mon doigt touche un nom, Saint-Pierre et Miquelon. Ah, tiens, ben oui, c'est en France, sans lettres. Ok, va pour Saint-Pierre et Miquelon. Là-bas, c'est sûr, tout sera neuf.
Qu'elles auront été nombreuses, mes nuits agitées, durant ma petite enfance dans les années 60. Puis ces nuits ont laissé place, comme par enchantement, à des nuits par la suite, calmes, sereines, apaisées. J'ai toujours cru à ce propos que le marchand de sable Oscar de l'émission télévisée en noir et blanc, de la seule chaîne à l'époque de l'ORTF, aux nuits des petits, avait dû y être pour quelque chose dans mes années 60-70. Chaque soir, en effet, un ours nous rendait visite dans ces années-là, avant notre coucher, nous posait des questions sur notre journée, puis nous racontait une histoire avant qu'une poignée de sable dorée nous tombait en pluie alors que nous étions souvent déjà endormis dans le monde féerique de nounours. Mes années 80, qu'elles auront été nombreuses aussi, mes nuits à la belle étoile, mes nuits blanches sans sommeil, mes nuits festives jusqu'au bout de celle-ci, arrosées trop souvent de whisky et disco à gogo. On me disait souvent dans ces années-là, il faut qu'il lui fallait bien que jeunesse se passe. Et les nuits de mes années 90, quant à elles, auront été nombreuses à être exclusivement occupées professionnellement par des gardes des astreintes de week-end. J'en terminerai par mes nuits depuis le 31 juillet 2023, date à laquelle j'ai mis un terme à ma carrière professionnelle. Mes nuits aujourd'hui me surprennent toujours et je me laisse aller à leur gré, une nuit en chassant une autre. Je les accepte toutes comme elles m'arrivent, tout en acceptant la qualité du sommeil qu'elles me réserveront.
C'était la période chaude à Bali. Je venais de passer une semaine de tourisme collectif organisé par le CE de ma société il y a environ une dizaine d'années. Tout y était planifié. Matin très tôt, pour éviter au maximum la chaleur étouffante de la journée. Départ en car climatisé, de ville en ville, et les visites presque au pas de course, avec comme repère un petit bâton rubané que brandissait notre guide. Mais nous avions tout de même suffisamment de temps pour admirer les paysages verdoyants et luxuriants de plantes géantes et colorées tout autour de nous. Les paysages défilent et ne se ressemblent pas, des champs de thé aussi, la montagne plus sombre et dominante au loin. Dès que l'on sortait du car, l'humidité pesante sur nos épaules nous ramollissait. Nous avions chacun une gourde remplie d'eau potable et une grande réserve dans le car. Les gourdes se vidaient très vite et nous prenions la précaution de mouiller nos foulards pour se rafraîchir de temps en temps. Une banane autour de la taille ou un petit sac à dos pour nos papiers et la nourriture gourmande que nous pouvions acheter au coin des rues, attirée par l'odeur agréable qui nous faisait lever le nez et respirer à fond. Alors les sites touristiques s'enchaînent, le monde grouille, peu de locaux et quelques personnes se plaignent. Toujours les mêmes, de la chaleur, la moiteur, le manque d'eau fraîche, la fatigue, le mal de pied. Enfin les râleurs se taisent et nous voilà à l'ombre de sortes de palmiers sur une terrasse peinte en blanc avec des chaises de fortune, mais à manger de vrais plats locaux et de l'eau en bouteille. Dans la partie montagneuse, il faisait un peu moins lourd et nous apprécions enfin les balades. À la fin de notre circuit, le groupe est rentré à Paris et moi j'ai décidé de rester une semaine de plus pour déambuler dans les vieilles rues en alternance avec les immenses plages de rêve, me poser dans un coin pour dessiner les passants et voir les enfants curieux autour de moi en riant. Je ne parle pas anglais ni leur langue.
mais nous nous comprenions. J'aimais me perdre dans la ville, j'aimais aussi prendre le bateau pour visiter les îles environnantes, regarder le coucher de soleil, regarder l'eau transparente pour y apercevoir une grosse tortue et des poissons de toutes les couleurs, juste avec un masque et un tuba. J'aimais aussi louer un vélo et partir à la campagne, traverser les villages, s'y arrêter, prendre des photos. J'avais dans mon sac à dos quelques petits objets, jouets ou stylos. J'aimais les distribuer et parfois on me donnait des fruits, des sourires et des cris de joie. Je ne sentais plus la chaleur dans ces moments d'échange. J'ai eu du mal à rentrer à Paris, mais heureuse quand même de retrouver ma famille, ravie de raconter mon petit séjour heureux.
Avec l'auteur en question, pile poil en plein dans mes années, car à peu de choses près, nous avions le même âge, à 5 ans, différence. Nous avions aussi la Normandie en commun, puisque je suis normande, et à l'époque, je pensais que c'était super chouette, cette contrée, poiriers, pommiers, luxuriance de la végétation, les vaches normandes, marron et blanche, le camembert, je suis née juste à côté, le lait, la crème, l'opulence en quelque sorte, et le côté normand, peut-être ben quick, peut-être ben que non. Le côté rustique des gens, et après les années au lycée Alain, qui a écrit les propos sur le bonheur, magnifique, c'est l'appel d'ailleurs, avant Paris, l'Angleterre, l'Afrique, et Paris, Pantin à Pantin. Découverte de Paris à Paris, le métro, le plan de Paris avec le livre, bien sûr, les sandwichs, les taxis, le bus et les avions. Il paraît qu'il y avait un qui allait franchir le mur du son à Mach 2. Ben oui, je ne savais pas à l'époque que je ferais partie de la compagnie en question, car je n'avais jamais pris l'avion. Je me suis rattrapée puisque j'étais une rampante à Air France pendant 46 ans et j'enregistrais les passagers du fameux avion. Et voyager encore et encore et de tomber amoureuse du Concorde, pas des pilotes. Merci l'anglais, la philo, le sport que j'ai continué et les voyages. Le dernier à Bali, le plus beau.
Rue Mellet. Le portail de l'immeuble impressionne. Peint en noir, majestueux, ancien, au sommet d'une rue située entre République et Strasbourg-Saint-Denis, on ne peut l'ouvrir de l'extérieur que si on a la clé. Une grosse clé pour des mains d'enfants, dont chaque habitant de l'immeuble détient un seul exemplaire. Il ne faut pas le perdre. Une fois le portail ouvert, on se trouve dans le hall de l'immeuble. À gauche, la loge de concierge, minuscule. À droite, un petit appartement de l'air plus grand, occupé par une famille rapatriée d'Afrique du Nord. Curieusement, une grande statue blanche, représentant une femme en toge dans un style gréco-romain, domine le visiteur du haut d'un socle, à côté de l'escalier. Une grosse lampe baroque, suspendue au plafond au milieu du hall, complète ce décor qui pourrait être celui d'un hôtel particulier du XVIIe siècle. So chic. L'escalier est large, imposant vu du bas. Il monte vers les étages en tournant et rétrécit progressivement. Arrivé au troisième étage, les marches sont hautes et resserrées. Il n'y a qu'une porte, étroite. Une fenêtre placée en surplomb à gauche apporte un peu de lumière et permet d'entrevoir un bout de toit gris. Il y a un quatrième étage, le dernier, dont on aperçoit deux portes. La porte du troisième étage ouvre sur une volée de quatre marches suivie d'un long couloir éclairé par des vassistas vétustes. À gauche, en entrant, les toilettes, puis deux chambres minuscules et mansardées. Au bout du couloir, une porte ouvre sur la pièce principale, dont la fonction a évolué au fil du temps. Chambre à coucher familiale au début des années 60, elle est devenue salon salle à manger 20 ans plus tard. Dans cette pièce se trouve la seule fenêtre à hauteur d'homme ou de femme, d'où on aperçoit les immeubles environnants, un horizon de ciel et de toit en zinc. Au loin, à droite, le haut de la tour Montparnasse.
Mémoire en partage, au pas si loin.